Philippe, ça a été un gros week-end de football. Est-ce que tu as eu du plaisir devant ta télé?
Oui, j'en ai écouté beaucoup. Puis hier soir, ça s'est terminé avec ce match entre deux légendes quart arrière, Drew Brees des Saints de la Nouvelle-Orléans et Tom Brady des Buccaneers de Tampa Bay. Brady, les Bucs l'ont emporté. Alors Brady qui continue à construire cette légende qui est déjà tellement énorme, mais il ajoute une autre brique. Puis on ne perdra pas contre ses chances d'aller encore plus loin parce qu'avec Brady, tout est vraiment possible. Mais il y a eu vraiment un beau moment après le match. Le match était terminé depuis longtemps. Les joueurs avaient donné leur conférence de presse, pris leur douche et tout. Et là, sur le terrain du Superdome de la Nouvelle-Orléans, Brady et Breeze se sont retrouvés. Et ce qu'il faut comprendre, Patrick, c'est que Breeze, c'était probablement son dernier match en carrière. Là, il va prendre sa retraite. Selon beaucoup d'informations,
il y a un beau contrat d'analyste qui l'attend.
C'est ça, avec NBC, ça serait déjà signé. Et puis là, ben, les gars, les deux se sont mis à jaser. Puis les enfants de Breeze, des petits garçons de 9 ans, 10 ans, jouaient à côté, couraient sur le terrain. Et puis là, Breeze et Brady discutent. Puis à la fin, tu vois, là, la scène a été captée. Puis ils se font une grosse accolade. Puis tu sais, c'est quand même beau de voir ça. Et là, un des gars de Breeze arrive avec un ballon de football. Puis il donne à Brady. Puis il dit, fais-moi donc une passe. Et là, tu vois, le petit gars qui part à courir vers la zone début. Puis Brady qui lui lance une passe parfaite. Puis là, le petit gars célèbre, vient de marquer un toucher au Superdome. Mais tu sais, c'était cute de voir ça. Il y avait un côté humain qui était le fun. Puis je pense de voir deux grands joueurs, deux grands athlètes comme ça qui ont tellement donné à leur sport, de se dire au revoir comme ça quand on sait très bien que pour l'un d'entre eux, c'est la fin, c'est le bonjour final. C'était assez émouvant aujourd'hui quand la scène s'est retrouvée là, sur les médias sociaux.
OK, parle-moi de tennis, parce que, bon, on le sait, ici au Canada, il y a des questions qui se posent sur le confinement, la quarantaine des voyageurs. Bien, en Australie, que tu sois un simple voyageur ou un tennisman vedette, disons que le confinement est pas mal plus tough.
Oui, pas mal sévère. Alors, bon, comment peut-on faire pour jouer l'Omnium d'Australie? On sait à Melbourne a été une ville passablement affectée, puis quand il y a eu le confinement là-bas, c'était très sévère. Alors là, on veut pas retomber, on veut pas qu'il y ait de nouvelles éclosions massives. Alors, on a dit, OK, on va faire les internationaux d'Australie, au lieu de les commencer à la mi-janvier, comme à l'habitude. Hein, je vous rappelle, c'est le premier majeur de la saison, c'est un tournoi important. On va commencer ça le 8 février, mais les joueurs et les joueuses vont arriver avant. Mais pour minimiser les risques, on va louer des avions. Il y aura des vols nolisés. Il y en aura 17 vols nolisés de 8 destinations différentes. Les joueurs, les joueuses vont se rendre dans la destination. Là, ils vont passer un test de COVID pour être sûr qu'ils puissent prendre l'avion. Et puis les avions, là, on les remplira pas à pleine capacité. Environ 25 % de façon à ce qu'il y ait de la distanciation sociale dans l'avion. Donc, pour mettre toutes les chances du côté là, de la santé publique. Mais en arrivant à Melbourne, il y a un autre test de COVID qui doit être passé par tout le monde avant de se rendre aux hôtels et tout. Et là, il y a eu des tests positifs, notamment Sylvain Bruno, l'entraîneur de Bianca Andreescu, qui comprend pas comment il a pu attraper la COVID. Il dit qu'il a respecté toute la réglementation. Il a testé négatif juste avant de partir. Mais bon, c'est ça la maladie. Il est positif. Alors là, tous les gens qui étaient dans l'avion dans lequel était Sylvain Bruno, ben c'est confinement dur pendant 14 jours. Ça veut dire quoi, confinement dur? Ça veut dire que tu es dans ta chambre d'hôtel, la porte fermée, et tu ne sors pas pendant 14 jours. Les repas arrivent à ta chambre, et puis il y a des joueurs qui ont des chambres d'hôtel qui sont le fun. On a vu des photos, là, puis ils ont une vue et tout, mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Alizée Cornet, qui est une excellente joueuse française, elle a mis la photo de sa vue, là, c'est sur une cour intérieure. Tout ce que tu vois, c'est les murs des autres ailes de l'hôtel, c'est sa seule vue, peut-être qu'en se penchant un peu voir le ciel, tu sais, pendant 14 jours. Alors, ça va être quand même assez dur là, pour les joueurs. Et là, il y en a qui s'entraînent dans les chambres d'hôtel. Alors, il paraît que tu entends des balles de tennis qui volent sur les murs. Et puis, il y en a d'autres qui sautent, tu sais, qui font toutes sortes d'exercices. Oui, oui. Parce que là, ils se sont entraînés pendant des semaines pour arriver en forme en Australie. Puis là, tu peux pas sortir de la chambre d'hôtel.
Ils vont sortir deux semaines après, tout ankylosé.
Ben, exactement. Donc, il faut qu'ils fassent un minimum d'exercices. Mais dans une chambre d'hôtel, c'est pas évident. Les joueurs qui ont eu la chance de se retrouver dans un avion dans lequel il n'y a pas eu de cas de COVID, eux peuvent sortir pour aller s'entraîner 5 heures par jour. Mais pas question, là, après, d'aller manger dans un restaurant à Melbourne puis de fêter ensemble. Ça, c'est complètement interdit tant qu'ils n'auront pas terminé leur quarantaine. C'est simplement une exception pour aller s'entraîner.
Je me demande si Bianca Andreescu et son agent ou son entraîneur, bon, lui a la COVID, elle était dans l'avion.
Elle était dans l'avion, il semble-t-il qu'elle était dans l'avion.
Donc, est-ce qu'on va développer des stratégies où l'athlète pourrait être séparé de l'entraîneur?
Mais ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. S'ils ont été dans un vol où il y a un cas de COVID, ils peuvent se parler par Zoom puis tout ça. Là,
mais
puis...
elle ne peut pas jouer, non plus.
Non plus.
Philippe, ils n'ont pas d'humour, les Australiens. Là. Raconte l'histoire des joueurs qui ont qui étaient dans le même couloir, qui ont ouvert la porte.
Oui, ils ont ouvert la porte. Deux joueurs, semble-t-il, qui ont ouvert la porte. Ils étaient vraiment l'un à l'extrémité du couloir.
Sans sortir de leur chambre.
Non, c'est ça. Ben, juste le nez dehors. Puis dire hey, comment ça va? Puis comment tu trouves ça et tout. Puis les autorités s'en sont aperçues. Ils leur ont dit écoutez, prochaine fois, 20 000 $ d'amende. Et puis, si vous voulez continuer comme ça, on va vous changer de place. Il y aura plus moyen de jaser avec un ami de long du couloir. Alors, donc, c'est très, très sérieux la façon dont on gère ça là-bas. On veut éviter vraiment un rebond de la COVID à Melbourne. Mais il y a des joueuses, notamment Sorana Sestra, là, une Roumaine, qui a dit, écoutez-moi, avoir su là, que ça serait comme ça, que si j'étais dans un avion, il y avait un cas de COVID, que je serais vraiment confiné à ma chambre, là, un confinement dur, je suis pas sûr que je serais venu. Et là, on lui a dit, ben écoutez, c'était écrit dans le contrat que vous avez signé, puis tout ça. Alors bon, ça va finir par passer ces 14 jours, là. C'est pas un mois et demi non plus, mais on peut comprendre là, que ça doit être assez difficile pour des jeunes athlètes professionnels.
OK, parle-nous de la Biélorussie, là, qui est une dictature, qui a perdu la présentation du championnat mondial de hockey du printemps. Là, qui s'en
Excellente nouvelle, si tu veux mon avis, parce que c'était vraiment scandaleux de voir ça. La Biélorussie organisait le prochain championnat du monde de hockey en compagnie de la Lettonie. Et là, c'est ce qui s'est passé en Biélorussie. Il y a eu des élections qui ont reporté au pouvoir le président.
Là-bas, c'est une vraie dictature. Oui. On va mettre élection entre guillemets.
C'est
Philippe,
ça.
Quand tu protestes contre le pouvoir, ils ne te donnent pas une amende de 1500$, ils te sacent en prison.
C'est ça. Et les arrestations, ça, on les compte par milliers, là, parce qu'il y a eu beaucoup de manifs contre le président Alexandre Loukachenko. Mais là, lui, il a vécu, je pense, la rébellion en emprisonnant à tour de bras. C'est vraiment terrible, l'atteinte aux droits démocratiques qui se passe là-bas. Mais le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, René Fassel, est allé rencontrer M. Loukachenko la semaine dernière pour discuter de tout ça.
C'est une belle accolade.
Il y a eu une accolade. C'est une photo qui est absolument terrible où tu vois le président de la Fédération internationale de hockey qui serre Loukachenko dans ses bras. M. Fassel a dit, ah, écoutez, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il dit, là-bas, en Biélorussie, une accolade, c'est comme nous, se donner une poignée de main. C'est aussi naturel que ça. Penses-tu pas que M. Loukachenko n'était pas fier de donner l'accolade au président de la Fédération internationale de hockey sur glace? C'était un signe, entre guillemets, d'acceptation.
Mais qu'est-ce qui a fait basculer? Qu'est-ce qui a poussé cette décision-là?
Je te donne un choix. M. Fassel qui a dit non, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas se permettre ça, ou les commanditaires qui ont dit non, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas se permettre ça? C'est quoi ta réponse?
C'est l'argent qui a parlé.
C'est l'argent qui a parlé. Les commanditaires ont dit non. Skoda, fabricant automobile, Tissot, les montres et une compagnie Liquimoli qui ont dit non, si vous faites ça en Biélorussie, nous, on se retire complètement de ce tournoi-là. Et c'est comme ça que la Biélorussie vient de perdre le tournoi. Mais ça aurait été le fun de voir René Fassel comme président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Il est là depuis beaucoup trop longtemps, à mon avis, depuis 27 ans. Ça n'a pas de bon sens, des mandats comme ça. On ne voit plus ça, d'ailleurs, dans le sport. Le Comité international olympique, avant, tu avais des gens qui étaient présidents pendant des années et des années et des années. Maintenant, c'est limité à 12 ans. Le soccer, c'est 8 ou 12 ans également. Il y a des termes, il y a des limites au mandat. Mais dans la Fédération internationale de hockey sur glace, M. Fassel est là depuis 27 ans. Puis il y aurait une occasion, je pense, de terminer en beauté en disant non, nous, on n'ira pas en Biélorussie, mais il a plutôt essayé d'arranger ça en disant, écoutez, le sport a un pouvoir de réconciliation. On peut réconcilier avec le sport. Alors, jouons le tournoi là-bas, puis tout le monde va se réconcilier. C'est navrant.